Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens sur le 87.7 FM. En ce vendredi 28 novembre, vous retrouvez votre stagiaire star, Léo, pour ce nouvel Info Club Sandwich. Une semaine après la fin du Festival du film international d'Amiens, nous vous proposons une dernière interview en compagnie du réalisateur Chris Itois et la programmatrice Léa Brunet, venue nous parler de la cinémathèque idéale des banlieues du monde. Colline, c'est à toi.
Alors, je suis en compagnie de Léa Brunet et Chris Itois. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de la cinémathèque idéale des banlieues du monde et après on parlera du coup de tes courts-métrages documentaires, Chris. Alors, qu'est-ce que la cinémathèque idéale des banlieues du monde ?
Alors, la cinémathèque idéale des banlieues du monde, c'est un projet coporté par les ateliers Médicis et le centre Pompidou qui est né peu après la diffusion du film Nous d'Alice Diop. C'est un projet qui a été imaginé par cette réalisatrice, celui de la cinémathèque idéale des banlieues du monde, justement parce que au moment de la réception de son film Nous, elle s'est beaucoup interrogée sur cette assignation qui lui était faite, qui était celle d'être une cinéaste de banlieue et du terme cinéma de banlieue, et elle a eu envie de questionner justement ce terme et quelque part cette assignation en faisant une cinémathèque idéale des banlieues du monde qui aurait pour objectif justement de répertorier un nombre de films importants et non un nombre de films réduits quelque chose qui peut paraître anecdotique peut-être dans les présentations médiatiques et voilà de donner toute sa place à cette multiplicité de films et de points de vue pour justement lutter contre cet enfermement et cette assignation. Donc la Cinémathèque idéale des banlieues du monde aujourd'hui, c'est une programmation en partenariat avec Cinéma 93, le réseau Cinéma 93, qui sont des salles de cinéma, plusieurs salles de cinéma qui font partie d'un réseau en Seine-Saint-Denis. C'est une programmation aux ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Et une programmation aussi dans les salles de cinéma du Centre Pompidou. On a d'autres partenaires comme les laboratoires d'Aubervilliers et aujourd'hui le FIFAM.
Alors le Centre Pompidou ferme pendant 5 ans. Comment ça va se passer du coup? Vous allez aller ailleurs?
Alors, donc concernant le Centre Pompidou, il y a divers lieux qui vont être investis justement pour continuer la programmation du centre durant les travaux. Et concernant les cinémas, ce sera au MK2 Bibliothèque, la partie du MK2 Bibliothèque qui est juste en face de la BNF, c'est scindé en deux parties. Et il y a une partie de ce MK2 qui est en face de la bibliothèque qui est renommée MK2 Bibliothèque fois Centre Pompidou pendant 5 ans.
Alors Alice Diop, elle dit aussi que le CIBM, donc la cinémathèque idéale des banlieues du monde, c'est aussi raconter, dessiner, archiver ces histoires qui font partie de l'histoire française en les plaçant dans un lieu institutionnel d'où elles sont encore largement absentes. C'est combler les trous, les absences, les silences. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous arrivez à faire ça justement à la cinémathèque?
Une des choses que l'on fait, c'est que chaque mois, on a un site internet, celui de la cinémathèque idéale des banlieues du monde, et chaque mois, on demande à des artistes, à des cinéastes ou à des chercheurs de s'emparer de cette question et de nous proposer des films qui viennent justement élargir ce catalogue. Et c'est un peu un fonctionnement collaboratif pour justement combler ces trous, ces absences, sans prétendre avoir nous-mêmes la réponse, mais plutôt en posant la question à divers artistes, cinéastes, chercheurs, comme je le disais, qui investissent cette question.
Alors, vous ne produisez pas de films ?
Non, alors c'est un peu compliqué parce que... non, on ne produit pas de films. On ne produit pas de films, on en restaure, enfin, on aide à la restauration de certains films. Voilà. Et également, on a un workshop Jeune Création dans lequel on accompagne chaque année des artistes. Et Chris, justement, faisait partie de la première édition du workshop Jeune Création en 2021.
Donc, c'est aussi un tremplin pour de jeunes cinéastes de se lancer, de réaliser leurs propres films.
Oui, je pense que c'est un accompagnement et ça permet aussi de rencontrer d'autres jeunes cinéastes et de partager avec eux des questionnements, des inspirations. C'est un espace aussi de discussion.
Voilà. Alors du coup, Chris, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de cette collaboration avec la Cinémathèque ?
Donc, comme l'a dit Léa, pour moi, ça a commencé avec le workshop. Et c'était intéressant ta réflexion sur le fait que ce soit un tremplin. Finalement, moi, je l'ai vécu comme ça, mais je pense pas que ce soit la vocation première non plus de ce workshop. C'est plutôt les temps d'échange et de travail et d'accompagnement autour des projets qu'on porte. Mais ça a quand même eu l'effet de tremplin, puisque le film est accompagné et valorisé, en fait, par la Cinémathèque idéale des banlieues du monde. Et du coup, oui, c'est un dialogue, en fait. Enfin, finalement, c'est un moyen pour moi d'à la fois diffuser le film et d'aller à la rencontre aussi des publics, tout simplement. Quoi.
C'est la première fois que tu les diffuses sur grand écran ?
C'est pas la première fois. Mes courts-métrages ont déjà fait des festivals de cinéma. En revanche, il y a une première, c'est la première fois qu'ils sont montrés en Picardie. Et je suis Picard. Donc du coup, c'est assez émouvant pour moi de montrer ces films-là dans leur Picardie natale, quoi, à ces projets. J'ai un attachement fort, en fait, à la région, et je l'affirme de plus en plus ces derniers temps, parce que en tant que personne noire, j'ai l'impression qu'il y a toujours une espèce de suspicion sur notre attachement au territoire, en fait, français. Le mien est très présent, et je pense qu'il est... On peut le ressentir dans les films, finalement, parce que ça devient le décor, mais également, il y a un commentaire, en fait, autour de ce lieu-là, quoi.
Et justement, ça me permet de faire une super transition, merci, avec tes courts-métrages. Donc le premier que tu as réalisé en 2022.
Monapoto.
Est-ce que tu peux le présenter rapidement, dire de quoi ça parle ?
Alors Monapoto, donc, c'est un court-métrage documentaire. C'est ma tentative de coming out, ou du moins mes questionnements autour du coming out, sachant que je suis de culture congolaise et je suis homosexuel. Et c'est souvent des identités qui rentrent en friction, en fait. Il y a souvent un sentiment qu'on peut pas être complètement l'un sans abandonner l'autre. Et le film, c'est une tentative... Enfin, en fait, je torture cette question de coming out. Pourquoi ? Comment ? Quelle réaction ? Et donc, du coup, je me mets en dialogue avec mes proches, donc mon copain de l'époque et ma cousine, qui ont des perspectives différentes. Et je me mets en parallèle en dialogue avec ma mère. Et pour faire advenir, justement, cette parole entre nous, je me sers d'archives familiales. Pour lui donner l'espace, en fait, de se raconter elle, et pas simplement rester sur l'imaginaire, en fait, que j'ai constitué autour de son identité de femme africaine et potentiellement homophobe. Et donc ça lui donne, en fait, un espace de parole.
Et alors, le fait de mettre ta famille en avant dans tes documentaires, c'est également le cas dans le deuxième court-métrage, dans Grand Garçon, puisque on suit ton frère.
Ouais.
Pourquoi choisir de vraiment montrer ta famille, montrer l'intimité ? Parce que l'archive, tu l'utilises aussi dans le deuxième cours.
Oui.
Pourquoi c'est important pour toi et qu'est-ce que tu veux montrer à travers ça ?
Pour moi, c'est important parce que je pense que... Enfin, j'ai la trentaine désormais et j'ai pas eu l'impression de beaucoup me voir au cinéma, en fait. Enfin, me voir, c'est-à-dire dans des moments d'intimité, de tendresse. Par exemple, Grand Garçon, c'est un film donc avec mon frère. Et pour moi, c'est important de montrer notre relation, quoi, que c'est pas une relation qui est dans l'adversité ou dans la brutalité. Enfin, c'est des échanges qui sont assez tendres, solidaires. Et je trouve qu'il y a une image un peu réduite parfois des identités minoritaires qui sont assignées, justement, le mot était très juste tout à l'heure, qui sont assignées, en fait, avec un espèce de précaré et je sais pas, des attitudes qui nous sont prêtées de façon comme ça, comme si on appartenait à un groupe homogène, en fait, qu'on était interchangeables les uns des autres. Et je trouve que montrer l'intimité, ça vient un peu déjouer ça. Ça vient créer le contre-récit, quoi, finalement, où on n'est pas dans... Enfin, en tout cas, dans mes films, les personnes ne sont pas dans des choses sensationnalistes, quoi. On est en train de parler, en fait.
Oui, c'est le quotidien.
C'est le quotidien,
c'est le quotidien que tu montres. Et justement, ce qui est extrêmement intéressant dans Grand Garçon, c'est qu'on suit aussi les interrogations, les peurs de ton frère.
Absolument.
Notamment lui, en tant que personne. Et je voulais revenir sur un plan qui m'a un petit peu... Je pense que je comprenais un petit peu ce que tu voulais montrer, mais en même temps, j'ai un peu envie de ton ressenti. C'est un plan où ils sont dans un café et tu filmes leurs chaussures.
Oui.
Leurs baskets. Pourquoi ?
Ah, c'est intéressant. C'est la première fois que j'ai cette question-là. Je trouve ça très intéressant. Filmer la chaussure et la basket, même pour être précis, Nike, et filmer en fait finalement ce à quoi ils sont réduits aussi quelque part à une certaine image qui serait celle streetwear. Et pour moi, c'est un peu contrecarré par juste le temps qu'on passe à les entendre, en fait. Être autre chose que ce qui est attendu d'eux. Et c'est aussi... ça, c'est des choses qu'on a un peu abandonnées dans le film, mais c'est très intéressant que tu vois ce plan-là. À un moment, moi, j'avais l'intention aussi de commenter le fait que leur image à eux, de garçons noirs au style plutôt urbain, streetwear, soit exploitée vachement dans la pub, en fait. Dans les pubs Nike, ce genre de choses, les Citadium et tout ça. Et qu'en fait, leur même présence dans un autre contexte vient les mettre en danger avec cette même attitude et tout ça. Et du coup, je trouve que leur corps ou leur identité ou leur mode d'expression, en fait, il est complètement armé contre eux en fonction des endroits où ils se trouvent. Et d'autres fois, il est complètement exploité. Et du coup, bah voilà, c'est pour moi, c'est l'enveloppe, en fait.
Oui, ça vient aussi contrebalancer, par exemple, quand on le voit s'habiller pas en tenue jogging et qu'il habille avec la chemise, le pantalon.
Ouais, absolument. En fait, il change de mue, quoi. Enfin, c'est vraiment pour s'intégrer à des milieux sociaux dans lesquels il sera en minorité a priori, comme, je sais pas, les études supérieures dans une autre ville ou le travail. Bah, en fait, il est obligé de changer de mue, quoi. Et donc, on abandonne la fameuse basket que tu as bien vue pour la chemise. Et on est traité différemment.
Tes courts-métrages, c'est ce qui est aussi très intéressant. Donc, tu mélanges de l'archive, mais pas seulement. Dans le deuxième, notamment, c'est aussi de la visio. C'est aussi de la vidéo un peu en mode story, réseaux sociaux. Ouais. Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que c'est des idées qui sont venues au fur et à mesure, qui ont été nourries peut-être avec ce que tu as pu voir ailleurs?
Alors, ces images du type, enfin, tournées au téléphone ou en visio, en fait, c'était presque le point de départ du film. Moi, je fantasmais un peu un film à l'iPhone au départ. Et ce que je voulais faire, c'était confronter eux leur façon de se représenter. Donc vraiment, leur vidéo ressemble beaucoup à des TikTok avec une adresse directe à la caméra, genre de choses. Et moi, comment je les regardais. Et finalement, j'ai pris une autre direction, mais c'est quand même resté. Parce que pour moi, c'est... je fais des films documentaires et en fait, c'est ça qui documente nos vies aujourd'hui, quoi. C'est ces images-là qu'on produit nous-mêmes. Et ça leur donnait aussi l'espace pour prendre en charge leur propre image. C'est pas simplement moi avec une caméra professionnelle qui les regarde, c'est eux qui se regardent. Et dans le film, il y a un moment durant lequel mon frère me contredit presque. Enfin, il prend vraiment en charge la narration et la parole autour du film. Et voilà, et c'est sa place.
Et dans le tout premier, donc celui que tu as réalisé où on voit ta mère, il y a aussi une chose extrêmement intéressante, je trouve, qui change du documentaire. C'est quand tu te filmes en train de faire des recherches. Mmh. Et en fait, il y a le côté vraiment de l'écran. Où t'es en arrière-plan, enfin c'est en arrière-plan mais c'est un peu superposé.
Ouais. Oui, c'est une projection en fait de l'écran d'ordinateur sur moi, sur mon corps pendant que je suis en train de faire les recherches.
Ouais. Et d'où t'es venue cette idée-là?
Alors, il y a plusieurs, plusieurs sources à ça. Au départ, je craignais que ce soit un film que de paroles, que ce soit vraiment... que de la discussion comme ça, je voulais travailler une force plastique en fait au film. Et du coup, cette idée de projection, c'était un peu de façon simplette, on va dire. C'était les projections que j'émettais sur ma mère aussi, quoi. Enfin, et les peurs en fait, qui viennent complètement de choses virtuelles finalement, qui n'appartiennent pas que à notre relation, à nous deux, mais qui appartiennent aussi aux regards qui sont posés sur notre relation, ou sur sa culture, ou sur mon homosexualité. Et du coup, voilà, les images internet ou les recherches internet, en fait, je peux en faire autant que je veux des recherches internet. Ça ne me dira pas comment rentrer dans ce dialogue-là avec cette personne qui est un individu et pas un stéréotype, quoi.
Dans tes prochains projets, est-ce que tu comptes encore mettre en avant ton intimité ou est-ce que justement tu veux t'éloigner et travailler sur autre chose?
Alors c'est un continuum quand même, je pense. Là, avec ces deux films, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma manière de faire. En revanche, je vais pas faire un documentaire. En fait, mon prochain film n'est pas un documentaire, mais la source de cette fiction, elle est complètement ancrée dans moi, ce que je vis, mon point de vue. Enfin, tout à l'heure, je parlais de mon attachement à la Picardie. Bah, mon prochain film se déroulera a priori dans une ville semi-rurale et il s'agira de traiter la présence de jeunes noirs en fait dans cet environnement, quoi, et comment on se vit en tant que minorité finalement dans ces endroits où, enfin, qui sont les nôtres en fait, mais dans lesquels on est constamment fétichisé, scruté, regardé. Et du coup, mes personnages sont des mecs homosexuels noirs qui justement vivent ça très fortement dans un endroit où ils sont en minorité, pardon.
Et du coup, ça continuera cette collaboration avec le CIBM ?
Bah, j'espère.
Oui, bah de toute façon, nous, on a à cœur de... déjà, on regarde ce que font les personnes qui ont participé au workshop et on a à cœur de partager des films qui nous semblent géniaux. Voilà, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas.
Alors, on revient vite fait peut-être sur la Cinémathèque.
Oui.
Petite question, combien est-ce que vous êtes pour gérer un petit peu ce catalogue ?
Comme je le disais, le projet il est partagé entre les ateliers Médicis et le Centre Pompidou. Et donc, nous, côté atelier Médicis, on est deux. Et côté Centre Pompidou, il y a aussi deux personnes. Voilà, donc on est à peu près quatre.
Et est-ce que, donc c'est un projet qui a été lancé par Alice Diop ? Est-ce qu'elle intervient ? Comment ?
Alors cette cinémathèque, elle a été imaginée par Alice Diop et bien sûr, elle est très attachée à ce projet. Mais l'idée, c'était aussi que cette cinémathèque, elle vive avec les artistes et qu'elle soit vivante par les artistes et que ce soit pas à elle de décider de la programmation ou de ces choses-là. Nous, on travaille finalement aux relations qu'on a avec les artistes et à la manière dont eux, ils peuvent nourrir la cinémathèque de leur point de vue, de leur regard, aussi par leurs œuvres à eux, mais par les œuvres que eux aiment. Et donc l'idée, c'est pas de faire appel à elles sans arrêt l'activité de la cinémathèque. C'est plutôt que les artistes puissent s'emparer de cette cinémathèque. Voilà, c'est ça le.
Et petite dernière question, est-ce qu'ils viennent facilement vers vous ? Est-ce qu'ils connaissent la cinémathèque idéale des banlieues du monde ? Parce que c'est pas forcément quelque chose dont on entend parler tous les jours.
Oui, alors en fait, ça c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que la cinémathèque vit, c'est parce que nous, on est déjà en relation avec un certain nombre d'artistes, pas pour différentes raisons. Par exemple, typiquement, quand on fait des workshops de création ou... On est en relation avec une multitude d'artistes. Et puis, comme je vous le disais, ces artistes-là nourrissent le catalogue. Et donc, nous font découvrir d'autres artistes qui, eux-mêmes, après, nous font découvrir d'autres artistes.
Donc
c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. C'est, en fait, par recommandation de films qu'on ne connaîtrait pas. Et c'était ça aussi... L'objectif, c'était de ne pas rester, d'avoir une multitude de points de vue sur ce que pourrait être la banlieue. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est la cinémathèque idéale des banlieues du monde. C'est qu'on a aussi voulu étendre l'idée de banlieue qui est souvent extrêmement stéréotypée et surtout réductrice, et aussi la connecter avec l'idée de banlieue ailleurs dans le monde, par exemple. De périphérie ailleurs dans le monde. Et l'objectif, c'était qu'une multitude de personnes puissent donc s'emparer de cette cinémathèque et nous recommander des artistes qu'ils aiment, nous les faire découvrir, et qu'à leur tour, ces artistes qu'ils aiment nous fassent découvrir des artistes qu'ils aiment. Voilà, c'est ça un peu l'idée et le fonctionnement.
Eh ben, merci Léa, merci Chris.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Sur le 87.7 FM à l'écoute d'InfoClub Sandwich et vous venez d'écouter Bad Girls de Blood Orange. Avant de se quitter, faisons le point sur l'agenda culturel et associatif. D'abord, du 28 au 30 novembre, les Gilets Orange de la Banque Alimentaire organisent une collecte annuelle. Dans la Somme, plus d'une centaine de magasins sera mobilisée. À l'occasion, les associations partenaires de la Banque Alimentaire seront accompagnées de leurs bénévoles et bénéficiaires. Les produits collectés leur seront directement redistribués. C'est un moment important puisque cette levée de produits de première nécessité permet d'aider les personnes dans le besoin en vue de passer l'hiver, la période la plus sensible en précarité alimentaire. Puis, laissez-vous emporter dans la découverte du Qigong, du bâton, avec Carole Carmen Faure, qui débute ce 30 novembre entre 9h30 et midi à la briqueterie. Cet art martial vise à renforcer l'énergie, la présence et la stabilité intérieure, tout en revitalisant l'ensemble du corps grâce à une pratique douce, précise et progressive. Le stage se déroule sur 5 séances et propose l'apprentissage d'un enchaînement de 8 mouvements guidés par la respiration. Le bâton devient tour à tour guide, pivot et balancier pour accompagner la fluidité du geste. Comptez 35€ la séance à l'unité et 150€ si vous souhaitez faire les 5 séances. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur le site Helloasso en recherchant Qigong Amiens. Le nombre de places est limité, alors ne tardez pas. Pour finir cet agenda, rendez-vous ce dimanche 30 novembre à 15h au théâtre de marionnettes chez Cabotin d'Amiens. Une réinterprétation picarde du Petit Chaperon Rouge vous sera proposée, où vont se rencontrer les grandes figures de la littérature jeunesse et les pittoresques héros de l'héritage amiénois. Le tarif est de 10€ pour les adultes et de 5€ pour les moins de 12 ans. Il propose également des tarifs réduits. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site amiens-tourisme.com dans la section agenda. Voilà, c'est tout pour votre agenda culturel et associatif pour ce week-end, ce qui annonce malheureusement la fin de votre InfoClub Sandwich. Restez à l'écoute de Radio Campus Amiens. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine avec des émissions riches et variées. En attendant, on se quitte avec le titre Dark Side de Blind Channel. Bonne journée à vous sur le 87.7 FM. So I gotta get paralyzed. My body is my weapon, so I keep it loaded till I'm all over the place, like my head exploded. Don't waste your prayers, they can't save us. I've done some of this, sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up, and don't stop. Follow me, say it.
for myself and my enemies of all the dark things that keep me wasted. For the sweetest I've ever tasted. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. Leave me there right from the dark side. Like a 27 club headshot, we don't wanna grow up. Leave me there right from the dark side. Right from the dark side. Your prayers, they can't save us. Lifestyles of the sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop.